Hello and welcome to La Crème Anglaise, the podcast où nous dégustons des spécialités britanniques et leur histoire dans mon salon de thé. Je suis Sarah Lesage et ravie de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, je suis avec Sarah, une Alsacienne qui habite à Edinburgh, en Écosse. Guide touristique, blogueuse et podcasteur au sujet de l'Écosse, Sarah et son amie Aurélie, photographe culinaire, sortent un magnifique livre cette semaine à l'occasion de Burns Night, le 25 janvier. Cette fête où on mange traditionnellement le haggis réunit les Écossais pour célébrer le poète Robbie Burns. Le livre « Écosse, avoine, haggis et cranarin » est le premier livre en français de la cuisine écossaise. Et c'est de ce magnifique livre que Sarah a choisi notre spécialité aujourd'hui, le shortbread. So, pinky up and let's get started. Alors, bonjour Sarah.
Bonjour Sarah.
Et merci beaucoup d'être venue dans mon salon d'été aujourd'hui comme invitée.
Merci beaucoup de me recevoir.
Merci. Alors là, je te parle, tu es en Écosse, à Edinburgh. Est-ce que tu peux m'expliquer comment une Française, en plus de Mulhouse, là où je suis, arrive en Écosse?
Ben, c'est avant tout l'histoire d'un grand coup de cœur pour le pays. Moi, j'ai voyagé plusieurs fois en Écosse au début des années 2010 et c'était vraiment une rencontre très spéciale avec un pays et aussi une ville, celle d'Edimbourg. Et au bout d'un moment, je me suis dit « Ok, je n'ai pas le choix, il faut que je déménage en Écosse ». Et à l'époque, c'était très facile puisque c'était l'Union européenne. Donc, je suis arrivée avec mon sac à dos, j'ai trouvé un petit boulot, j'ai trouvé une chambre en colocation et c'était parti.
D'accord, et ça fait combien d'années que tu habites là-bas?
Eh bien là, ça fait 6 ans et demi et j'ai l'impression que c'est encore tout nouveau, mais non, ça commence à filer maintenant.
D'accord. Et alors, la cuisine écossaise, comment c'est pour toi? Tu l'as tout de suite trouvé des bonnes choses ou c'était un peu compliqué?
Avant de venir, je dois dire que j'y connaissais vraiment rien du tout, mais comme tout aspect de la culture d'un pays, ça m'intéressait de goûter et d'essayer de comprendre un petit peu quels étaient les éléments principaux de cette gastronomie. Et franchement, j'ai découvert une sorte de mélange entre à la fois des spécialités qui ont une très très vieille histoire et aussi des habitudes au quotidien qui sont pétries de plein de cultures différentes. Et tu sais, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler par exemple des haggis pakora. Donc c'est le haggis écossais qui est transformé en beignet indien, les pakora. Donc le haggis est mélangé avec encore d'autres épices, recouvert de... Ah, j'ai oublié le mot pour batter. C'est rigolo quand
la
ça
pâte.
Va dans un sens.
Oh, oui, la pâte, comme une pâte.
La pâte à frire, peut-être, je ne sais pas. Et hop, on plonge ça et ça fait un haggis pakora. Donc, en Écosse, on aime bien aussi mélanger les traditions très anciennes et les influences qui viennent du monde entier.
Ah oui, effectivement. Et alors, on a cette image, c'est un très beau pays, Écosse, mais on a une image de brouillard, de pluie, pas beaucoup de soleil. C'est comme ça pour toi?
Alors, c'est comme partout, hein, c'est très très variable. Mais simplement pour casser un peu les idées reçues, il faut savoir que en Écosse, la pluviométrie annuelle, elle est égale à celle de Montpellier, par exemple.
Non.
Et si, la différence, c'est qu'en Écosse, elle est saupoudrée tout au long de l'année, tandis que...
D'accord, c'est un peu la triste.
Voilà, quand il y a beaucoup d'orages, il y a beaucoup d'eau qui tombe, forcément. Mais tout ça pour dire que, bien sûr, il pleut, mais il fait aussi très très beau très souvent. Donc, c'est un pays où on dit souvent qu'il y a 4 saisons en une journée. C'est-à-dire que la météo change très vite, d'autant plus à Édimbourg, où on est au bord de la mer. Donc, il y a vraiment une météo semblable peut-être à celle de la Bretagne, très changeante. Et je dois dire que très souvent, j'accueille des gens en été et qui sont ravis d'être dans un pays où il fait 24 degrés quand il fait chaud.
Oui.
Parce que, on est loin des épisodes caniculaires qui sont maintenant très habituels en France.
Tout à fait. Et puis, comme vous êtes au nord, les journées sont très longues aussi en été.
Voilà. En hiver, c'est un peu dur, mais en été, c'est très agréable d'avoir le soleil très tard.
Alors, parce que là où je te parle, il est 8 heures du matin chez toi. Est-ce qu'il y a le soleil? Il s'est levé déjà?
Là, le ciel commence à devenir un petit peu bleu clair.
Ah oui, d'accord.
Par la fenêtre. Mais ça va. Non, là, on se rapproche peu à peu et c'est
super
agréable.
Alors, Sarah, tu sors un livre « Écosse, avoine, haggis et cranarin » le 28 janvier. Donc, c'est très bientôt, la semaine prochaine, aux éditions La Martinière avec ta copine Aurélie Bellasico. Comment ce livre est né? Deux Françaises qui vont faire un travail sur la cuisine écossaise.
Mais oui, c'est vrai, c'est avant tout l'histoire d'une super rencontre entre Aurélie et moi, et c'est aussi le fruit du confinement finalement, puisque comme je suis guide pendant le confinement, soudain il n'y a plus de travail, et j'ai commencé à poster sur mon site des recettes écossaises, ce qui m'a permis de commencer à discuter avec Aurélie, qui est une Française, photographe professionnelle. Sa spécialité, c'est la photographie culinaire, et c'est également une super cordon bleu. Et bah voilà, justement, j'avais posté une recette de shortbread et Aurélie a tout de suite, elle s'est intéressée à ça et elle m'a proposé des photos et tout ça. Et on a commencé à discuter et très rapidement, on a commencé à blaguer sur le fait que il n'existe pas de livre en français dédié à la culture gastronomique écossaise. Juste, il n'y en avait pas. Il y avait quelques vagues livres de recettes des années 80 traduits, mais il y en avait vraiment un ou deux et ils n'étaient pas très intéressants. Et donc on a commencé à travailler sur ce projet-là sans savoir où, comment est-ce qu'on pourrait le faire publier. Et on a eu énormément de chance de travailler avec La Martinière sur ce projet pour aboutir aujourd'hui à ce joli livre qui présente plus de 60 recettes. Et Aurélie a fait un travail incroyable hein, parce qu'elle a fait les recherches, elle a conçu ses recettes, elle les a faites plusieurs fois, photographiées pour monter tout ça. Et moi, je me suis occupée de faire tout le contenu culturel que l'on trouve autour parce qu'il y a chaque recette a une petite histoire, une petite anecdote. Et par ailleurs, il y a des articles un peu plus généralistes sur la culture écossaise dans le livre également.
Ah, bah super, c'est vrai que j'ai vu la couverture du livre et ça donne vraiment très envie. Alors, justement, c'est marrant parce que, comme tu dis, le recette qui vous a un peu lancé dans cette aventure, c'est le sujet d'aujourd'hui. C'est ce petit gâteau que quelqu'un a appelé le joyau de la couronne écossaise. Comment tu décris, toi, le shortbread?
Pour moi, le shortbread, c'est le petit gâteau le plus réconfortant, le plus savoureux, le plus simple. Et ça correspond bien à la cuisine écossaise, en fait, qui est quelque part très simple. Toujours des aliments que l'on trouve partout, qui sont aussi pas chers. Donc ça fait partie vraiment de l'identité de la cuisine écossaise. Et à la fois, on en trouve dans tous les supermarchés. D'ailleurs, même dans toute l'Europe, en France,
Oui,
on
en
peut en acheter
France.
très facilement dans les supermarchés.
Dans les boîtes avec le tartan, le kit, le
Oui,
maudit
les
kit,
Walkers.
le
Oui,
Walkers,
il y a la
voilà.
marque Walkers qui est, c'est une petite usine qui est dans le parc des Cairngorms, ou juste à la frontière nord du parc des Cairngorms. Et voilà, donc c'est vraiment le biscuit que tout le monde connaît en Écosse, tout le monde mange très régulièrement. Donc pour le coup, ça c'est une vraie habitude locale, on va dire. Et essayez avec le thé ou le café, c'est très bon.
Ah, c'est vrai. Et t'as un petit souvenir lié au shortbread, peut-être ton premier shortbread?
Bah alors, mon premier shortbread, je m'en souviens pas exactement, mais j'ai commencé à m'y intéresser à l'époque où je me suis dit, ok, ce serait bien de faire une recette sur un French Kilt. Et j'ai discuté avec une collègue guide qui s'appelle Lynn, qui m'a dit, attends, moi je vais te donner la recette de ma belle-mère, ma défunte belle-mère, c'est vraiment une recette de famille et tout ça. Donc elle m'a envoyé sa petite recette à elle, qui était très bonne, mais moi j'avais trouvé qu'il y avait un peu trop de beurre, donc je l'ai moi-même encore un petit peu adaptée à mon goût. Et je pense que c'est ce que tout le monde fait en fait. Tout le monde réussit à adapter son shortbread avec
Oui, c'est
les
peut-être ça
quelques
le
aliments très
succès.
simples.
C'est ça le
Ouais.
succès. Je pense qu'il est à la fois très facile et on peut s'adapter. On va voir justement, il y a plein de
Ouais.
variantes après. Et le recette donc qui est dans le livre, c'était basé sur cette recette d'origine?
Oui, après Aurélie a fait encore plein d'autres recherches parce qu'il y en a tellement des recettes pour trouver vraiment les proportions parfaites. Sachez que l'ingrédient un peu spécial, c'est la farine de riz qui se
Ah.
mélange avec la farine de blé normale. Si on n'en a pas, c'est pas grave, on n'utilise que la farine classique, mais ça rajoute un peu de légèreté, un peu de croustillant. Et voilà, donc c'est un ingrédient qui sera bien sûr dans la recette qui est dans le livre.
Et en trois mots, tu peux nous expliquer la recette parce que c'est quand même très simple pour
Oui.
donner envie et peut-être on pourrait partager les recettes sur mon site web
Bien sûr,
pour donner envie
avec
aux
joie.
Français d'essayer parce qu'on peut les acheter, mais c'est tellement mieux quand ça sort chaud du four avec
Ah
cette
oui, mais
odeur.
l'odeur dans la maison, juste le mettre dans le four, l'odeur dans la maison, c'est incroyable. Alors c'est très simple, il vous faut 300 grammes de farine de blé. Si vous pouvez remplacer 50 grammes par de la farine de riz fine, eh bien ce sera parfait. 100 grammes de sucre en poudre et 200 grammes de beurre, température ambiante, coupé en dés. Et là, très simplement, on amalgame tout ça, on mélange tout ça, on rajoute aussi une pincée de sel. Et là, en fait, ce qui est super avec le shortbread, c'est qu'on peut choisir la forme qu'on lui donne. C'est-à-dire que moi, j'aime bien en faire des boudins et les couper en rondelles. Certaines personnes préfèrent abaisser la pâte sur peut-être 2,5 cm, la cuire de cette manière et ensuite les découper en petites barres, en fait. On peut aussi étaler la pâte, utiliser un emporte-pièce pour faire des shortbreads de la forme que l'on veut. Et en Écosse, on trouve également de temps en temps, mais c'est presque devenu surtout des objets décoratifs aujourd'hui, ce sont des moules en bois qui sont des moules sculptés, décorés, qui permettent de faire des shortbreads circulaires, en forme de rond, et qu'on peut découper un peu comme on coupe une tarte. Et c'est cette forme-là, justement, qu'on appelle les petticoat
Oui, les petticoat tails. Oui, on va revenir à
tails.
ça après, c'est très intéressant. Donc, on mélange tout ça, on met dans le forme qu'on veut et puis vite au four.
Voilà, et ça cuit, je sais pas, 15 minutes, pas plus.
Alors, j'ai remarqué
Voilà.
sur le marque Workers, il y a des petits trous. Alors, la forme, c'est rectangulaire et il y a des petits trous. Et tu savais qu'il y a même un mot pour ces petits trous, ça s'appelle le
Ah,
docking.
génial.
Le docking. Et c'était fait pour que le gâteau peut gonfler légèrement, mais c'est fait pour que ça gonfle d'une manière uniforme. Et effectivement, c'est marrant que j'écoute ta recette parce que c'est un gâteau très simple qui est vraiment classique avec 1, 2, 3. 1 part sucre, 2 parts de beurre et 3 parts de farine. Et c'est ce que tu dis. Donc
Voilà.
ça, c'est vraiment très simple. Donc ce petit gâteau, il a des origines assez anciennes, je crois.
Alors oui, ce gâteau, ce shortbread, il a des origines très anciennes. On pense qu'il était mangé en Écosse déjà à partir du XIIe siècle, mais c'était sans doute une version un petit peu différente, un peu moins riche, avec, j'imagine, un petit peu moins de beurre. Mais en tout cas, c'est un biscuit simple, présent dans la culture écossaise depuis des siècles et des siècles, et qui aujourd'hui, en fait, s'est exporté absolument partout. Donc, il n'y a plus vraiment de...
Et je pense que c'était même pas sucré, parce qu'il faut pas oublier qu'on n'avait pas vraiment du sucre
Ah,
avant
bien
le
sûr, bien
17e
sûr.
siècle. Alors, moi, j'ai appris un truc l'autre jour que je trouve passionnant. Ce que j'adore, c'est quand on parle deux langues, tout d'un coup, il y a une évidence qu'on était sous le nez depuis toujours. Donc, une des choses, c'est l'origine de ce mot biscuit. Et pourquoi on appelle shortbread? C'est un gâteau, c'est pas un pain. Mais en fait, le biscuit, c'est un pain qui cuit deux fois. Et selon mes recherches, peut-être l'origine de ce shortbread, c'était un peu le reste des pains qu'ils étalaient et séchaient au fond du four très très longtemps pour que ça soit devienne sec comme une biscuit. Et puis après, on a certainement remplacé la levure de ce pain par le beurre. Et donc voilà les premiers shortbreads. Certainement salé, et après on a accommodé, on rajoutait du sucre et puis autre chose. Et puis on peut peut-être imaginer aussi qu'il y avait certaines influences françaises grâce à la vieille alliance de 1295 entre la France et l'Écosse. Et après on a notre fameuse Mary, Queen of Scots. Alors elle aimait beaucoup apparemment le shortbread et on ne sait pas, mais on pense que peut-être. Comme tu disais, cette forme triangulaire qu'on coupe, qu'on appelle the petticoat tails, peut-être ça fait référence à des jupons à godets qu'elle portait à l'époque, ou peut-être ça viendrait du mot petit gâteau, petit gâtel de France qu'elle aimait beaucoup. Donc petticoat tails, petit gâtel, il y a quand même au niveau du son, on entend que c'est
Il y a
peut-être
quelque
ça.
chose.
Mais bon, après, il y a toujours plein de légendes autour de ça.
Mais on en profite pour remercier Mary Stuart, Mary Queen of Scots, d'avoir popularisé le shortbread, parce qu'elle
Oui,
avait vraiment bon goût.
c'est ça. Et est-ce que tu sais pourquoi on appelle ça, alors je te dis un petit cours d'anglais peut-être, pourquoi on appelle ça shortening ou short, le shortbread?
Eh bien, je ne sais pas.
En fait, moi non plus, je te jure, mais c'est ça que c'est intéressant. C'était, en fait, le shortening, c'est une matière grasse. On trouve dans plein de choses, tu sais, dans la pâte, on dit short crust pastry. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que l'utiliser ce shortening, donc c'est tout ce qui peut être beurre, matière grasse végétale, en fait, ça raccourcit les fibres de gluten dans les pâtes. Et c'est ça qui crée un pâte un peu croustillant. Alors que une pâte élastique, comme pour les pizzas, ce n'est pas du tout la même chose et on va appeler ça pâte longue. Et en fait, comme le short crust pastry, on dit le pâte brisée en français. Peut-être c'est la même
Exactement, c'est
raison.
vrai, ouais. C'est génial.
Voilà.
Waouh.
Et donc, on mange ce shortbread à quelle occasion?
Alors, franchement, le shortbread, on peut le manger quand on veut. Quand on va dans un café, en général, c'est le petit gâteau qu'on nous pose près de la tasse. Mais c'est quand même un gâteau de fête aussi, même s'il est très simple, qu'on le mange beaucoup à la fin de l'année. Là, il va y avoir Burns Night, donc l'anniversaire du poète écossais Robert Burns. À cette occasion, on mange aussi des shortbreads et on en fait en tout cas. C'est aussi un gâteau à offrir à Noël, à Nouvel An. Donc dans les familles, on en fait, on en offre. C'est pas très différent des bredelés alsaciens quelque part,
Ouais,
peut-être.
c'est vrai qu'il y a un lien, ça. Mais c'est aussi parce que, comme tu disais, on peut les faire. Autrefois, on les faisait dans un grand forme rond. Et les Vikings, pour eux, le soleil, c'était très important. Et donc, ce rond pouvait symboliser le soleil. Il paraît que même, comme tu parlais des anciennes formes, je crois les boulangers, ils faisaient des formes où ils pinçaient les bords pour faire un peu comme les rayons de soleil. Et c'était considéré un peu un pain qui avait des pouvoirs magiques pour insulter le soleil. Tout ça, c'est lié avec les rituels des Vikings
Voilà.
autour de le Yule.
Et donc la fin de l'année, donc le retour à la saison longue, en
Voilà,
fait, à
c'est
partir du
ça.
21
Et est-ce
décembre.
que c'était pas aussi lié à cette tradition d'offrir quelque chose à quelqu'un, la première personne qui traverse la porte après le Nouvel An?
Oui, pour le first footing, je pense qu'il n'y a pas d'ingrédients obligatoires ou central. On parle souvent de whisky, mais quoi que ce soit, une douceur, quelque chose que l'on a fait soi-même aussi, c'est génial. Donc le shortbread est très bien indiqué.
Tu as parlé de fast footing. Tu peux dire ce que c'est?
Oui, bien sûr, c'est une tradition de Nouvel An où, en fait, on considère que la première personne après les 12 coups de minuit à franchir le seuil de votre maison va vous porter chance. Et donc, la tradition, c'est aussi d'amener quelque chose à manger, quelque chose à boire. Donc, après les 12 coups, vous pouvez sortir de chez vous, aller chez votre voisin et lui souhaiter la bonne année.
Ah, oh, c'est
Dès que
très sympa.
possible. Souvent, on dit que si c'est un homme grand avec des cheveux bruns, ça porte encore plus chance. Mais
Oh.
donc, qui que ce soit, ça fait plaisir.
Et tu m'avais pas raconté une histoire avec le shortbread et le mariage aussi?
Si, justement, il y a eu une tradition assez ancienne, même si aujourd'hui elle a plus vraiment cours, que l'on cassait en fait un de ces shortbreads. Donc, faut imaginer le shortbread pas découpé, rond, grand, sur la tête des mariés. Encore une fois, pour leur porter chance, pour symboliser cette union et tout ça. Donc, c'est aussi, je trouve, un beau symbole pour utiliser ce gâteau un peu spécial en Écosse.
Ah ouais, tout à fait. Alors, ce gâteau, en fait, il est tellement bon qu'on le trouve partout et il a été adapté par les goûts, par les ingrédients disponibles. Donc, en Angleterre, effectivement, on a par exemple le Goosnare Cake. C'est le nom d'un village au Lancashire, très populaire ce petit gâteau dans le 19e siècle, où on rajoutait du coriandre moulu. Pardon, j'arrive jamais à dire moulu. Coriandre moulu et des graines de carvi. On a également le Derbyshire Wake Cakes. Ça, c'est avec des raisins secs et carvi et un petit peu de zeste de citron. Et puis, on a le Shrewsbury Cakes aussi avec le cinnamon. Et il paraît que Queen Victoria à Balmoral, sa résidence en Écosse, elle aimait bien rajouter un petit peu de sel.
Ah
Et puis
oui.
aujourd'hui, on a aussi des versions modernes comme le Million Dollar Shortbread. Alors ça,
Oui.
c'est vraiment une
C'est décadent.
gourmandise.
C'est décadent.
Ça, c'est avec une couche de caramel et de chocolat. Et puis moi, pour les apéros, j'aime bien faire une version salée avec du parmesan. Ça, c'est super
Ah,
bon.
délicieux. Ouais. Ça marche à tous les coups.
Alors Sarah, maintenant on va arriver à ton faux pas culinaire, peut-être un malentendu depuis que tu es en Écosse, ou un moment de gêne avec la cuisine. Est-ce que tu as une petite histoire à partager avec moi?
Eh bien, ouais, c'est marrant parce que depuis que tu m'as dit qu'on discuterait ça, je me suis dit, ah, alors quel va être mon meilleur faux pas? Parce qu'évidemment, il y en a eu plein. Mais lequel serait le plus marquant? Comme je savais qu'on allait parler des shortbread, je me suis rappelé qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en plus juste là à l'automne, je ne sais plus pourquoi je devais faire beaucoup de shortbread à emmener quelque part. Je préparais plein de pâtes, j'ai tout cuit et tout, et là j'en ai goûté un, et il se trouve que j'avais oublié le sucre, donc j'avais peut-être fait un shortbread du Moyen-Âge, et c'était immangeable, c'était absolument immangeable. Et voilà, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On rigole et on recommence. Heureusement, les shortbread ne sont pas très compliqués. Et sinon, j'ai aussi pensé à une autre douceur, on va dire, de la fin de l'année, qui est en général vraiment inconnue des personnes qui emménagent au Royaume-Uni, c'est la mince pie.
Ah ouais.
Et dernièrement, mon amie Assa racontait que la première fois, en fait, elle pensait que la mince pie était salée et qu'elle était à la viande. Donc, elle a préparé sa mince pie avec un assortiment de purée et ça s'est mal passé.
Ce qui n'est pas faux complètement, parce qu'autrefois, à l'époque, on mélangeait tout. Et c'est vrai que d'abord, c'était la viande et ensuite, quand les épices sont arrivées, on rajoutait. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est plutôt un gâteau qu'on mange... au dessert ou pour le goûter.
Voilà, et à la saison de Noël, à la fin de l'année. Et je me souviens également, parce que quand je suis arrivée ici, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, dans une petite entreprise familiale qui était gérée par deux frères. Et puis un jour, ça devait être novembre ou décembre, là, mon chef, je sais pas, on discute et on réalise que je n'ai jamais, en fait, mangé de mince pies. Ça, je me disais, ouais, un jour, je le ferai, mais j'en avais jamais mangé. Quand il a entendu ça... Il m'a regardé, il m'a dit « Non, c'est pas possible, tu dois manger une mince pie. » Et là, il a tout arrêté, il est parti, il est allé en acheter. Donc il est quand même, voilà, c'est quelqu'un qui est très occupé et tout ça, donc moi j'étais à mon bureau en me disant « Oh non, qu'est-ce qui va se passer ?» Il est revenu avec juste des mince pies de la supérette d'à côté, donc rien de très exceptionnel. Il me dit « Non, non, il faut absolument que tu goûtes, il les met dans le micro-ondes parce qu'on n'avait pas de cuisine. » Il sort cette mince pie et là, tout le monde me regarde, quoi. Tout le monde
dit,
la française va manger sa mince pie. Et non, sur le papier, une mince pie, pour moi, ça a tout ce que j'aime, mais je dois te dire que ce premier jour où j'ai goûté cette mince pie de je ne sais où, je l'ai goûté, je n'ai pas du tout aimé, en fait. Et du coup, pour moi, c'est un souvenir un peu difficile parce que, à la fois, je trouvais que c'était vraiment pas bon, mais comme j'étais sous l'œil de tout le monde, mes autres collègues écossais, surtout mon chef, quoi, j'étais en mode, ah, dis donc, c'est vraiment très bon. Mais Aurélie a écrit une super recette de mince pie qui est bien sûr dans le livre et qui est absolument délicieuse. Et je pense, comme il y a de la cannelle, des fruits secs, ça plaira beaucoup aussi au palais alsacien.
Oui, mais je confirme qu'à premier abord, pour un Français, c'est un peu particulier comme goût. Je ne sais pas comment, parce qu'il y a du fruit sec, du sucre, mais il y a un petit peu un côté un peu même vinaigré ou acidulé, je ne sais pas comment dire. C'est vrai que mon mari, c'est toujours parfait, ils ne comprennent pas. Mais bon, chaque année, là, cette année, il a finalement apprécié le Christmas pudding. Donc, on va peut-être y arriver. Mais c'est vrai que ça fait partie de notre tradition. Mais au premier abord, c'est peut-être un peu surprenant. Mais finalement, c'est quand même très bon.
Voilà.
Ben, écoute, merci d'avoir partagé toutes ces petites histoires. Alors, je sais que tu viens à Mulhouse le samedi 5 février. Dans les librairies 47 degrés nord pour une dédicace de ton livre de 15h à 17h. Je sais, tu fais un petit peu une tournée en France, à Paris aussi, je crois, et en Alsace. Donc, peut-être on mettra les dates. En fait, non, je vais envoyer les gens sur ton site parce que Sarah, elle a un super site qui s'appelle The French Kilt. L'Écosse et tout ce qui est en dessus. C'est génial comme titre. Où elle a plein d'adresses, enfin tu es guide aussi, donc il y a des choses à faire, il y a plein de choses sur la culture, et tu es aussi un podcasteur, donc tu as un podcast qui s'appelle Écosse Toujours, qui raconte la culture, le quotidien de l'Écosse, très sympa, donc je mettrai un lien pour ça, comme ça je pense que vous allez mettre vos dates pour les tournées, si jamais quelqu'un veut aller te rencontrer et acheter ton super livre.
Oui, bien sûr. Tout à fait. Merci beaucoup, Sarah. C'était un plaisir de discuter de shortbread avec toi.
Ah ben merci aussi et bon courage pour le livre.
Merci, Sarah. À bientôt.
Merci d'avoir écouté La Crème Anglaise. Vous pouvez trouver le livre Écosse, Savoine, Haggis et Cranahan aux éditions La Martinière en librairie à partir de 28 janvier. Et si vous souhaitez savoir plus sur Burns Night, vous pouvez trouver l'épisode Haggis avec Candy sur mon site lacremeanglaise.eu. Alors à très bientôt pour un nouvel épisode. Cheerio and see you tomorrow, comme on dit en écossais.